Quand la maman Zélie, elle est sur le point de mourir, elle s'inquiète non pas pour ses deux petites dernières, Céline et Thérèse, parce qu'elle sait qu'en Céline et en Thérèse, il y a beaucoup de vitalité. Alors elle ne craint pas pour celle-là. Elle s'inquiète pour l'autre. Parce que vous vous rappelez de toutes les sœurs Martin, il y a Marie, c'est l'aînée. Il y a Pauline, c'est la deuxième. Il y a Céline, c'est la quatrième. Et puis il y a Thérèse, c'est la cinquième. Et toutes les quatre que je viens de nommer vont se retrouver au Carmel. Et comme ça ne suffisait pas, il y a même une cousine qui va rentrer au Carmel. Ça fera cinq. C'est beaucoup. Léonie, la voilà. La numéro 3. Léonie. Léonie, au moment où le papa fait avec ses filles un petit voyage parce que Marie, qui est l'aînée, va rentrer au Carmel. Alors on fait un dernier voyage avec les trois filles qui restent à la maison. Et voilà que pour revenir, il va en manquer une. Léonie a fait une échappée du côté des Clarisses et elle est restée chez les Clarisses. Et papa, quand il revient, il n'a plus que Marie et Thérèse. Céline, à ce moment-là, est au collège. Il en manque une. On s'inquiète, on pleure, mais on sait quand même qu'elle est chez les Clarisses. Le tonton qui connaît bien sa nièce dit « Ne vous inquiétez pas, elle va revenir bientôt. » Elle reviendra bientôt et elle va s'en aller après faire un essai chez les visitandines. Pourquoi les visitandines ? Parce que la tante, la sœur de Zélie, était visitandine. Alors, c'est comme s'il y avait un lien de famille avec les visitandines. Elle va faire ce deuxième essai chez les sœurs et puis elle va quitter les sœurs. Elle fera encore un nouvel essai chez les sœurs. Elle va quitter les sœurs. Et maintenant, quand Thérèse est sur le point de mourir, elle dit à ses autres sœurs, « Ne vous inquiétez pas. Quand je serai rendue là-haut, je vais m'occuper de Léonie. » Elle va si bien s'en occuper que Léonie va devenir sa meilleure disciple. Elle va avancer saintement sur le chemin de la petite voie que lui montre à Thérèse. Je m'arrête, hein, sans ça.
Vous m'arrêtez. Continuez, c'est si bien parti.
Voilà donc Luc qui vient nous présenter Léonie. Il fait partie des journalistes de famille chrétienne, donc il nous introduit dans cette belle famille.
Voilà, et pour parler d'un canard boiteux, on a choisi un canard boiteux, voilà. Et bègue, qui plus est. Donc vous m'excuserez de mes imperfections de langage. Dans le fond, je me demande ce que je fais ici. Parce qu'on m'a demandé de parler de quelqu'un qui ne voulait pas qu'on parle d'elle. Alors c'est pas simple. Alors j'ai essayé quand même de bosser le sujet. Il y a quelques livres qui existent. Il y en a quelques-uns qui vont paraître dans les mois à venir, dont l'un de Madame de Courcuffe qui est présente dans cette salle et qui devait initialement prendre la parole à ma place et puis elle s'est défilée et donc c'est moi qui assume ce petit topo sur Léonie Martin. Je me demande aussi ce que je fais ici. Parce que non seulement Léonie voulait rester cachée, mais elle avait tout pour tomber dans l'oubli. D'abord, elle est la sœur d'eux. Vous savez, c'est terrible d'être la sœur de Thérèse, d'être la sœur de la plus grande sainte des temps modernes, comme dit Pidis, la plus grande sainte des temps modernes, ça en pose. Docteur de l'Église, vous l'avez bien vu, vous êtes là pour ça, pour recueillir son enseignement spirituel, l'essence de sa vie, puisque son premier enseignement, le premier enseignement de Thérèse, c'est sa vie, et le premier enseignement, elle n'est pas docteur, Léonie, mais son premier enseignement, c'est elle, c'est sa vie, c'est ce parcours, comme l'a dit le Père, elle va être non seulement la première élève, mais la première disciple de Thérèse. Elle va être comme une sorte de cobaye. Thérèse initie cette voie de confiance et d'abandon qu'elle a repris de saint François de Sales. Et vous noterez que le nom de religieuse de Léonie, c'est François Thérèse, c'est-à-dire ses deux maîtres dans cette voie de l'abandon, saint François de Sales, le saint docteur de Genève, et puis sa sœur, sa petite sœur, puisqu'elle a accepté d'être la disciple de sa petite sœur. Léonie avait également tout pour tomber dans l'oubli parce qu'elle est coincée, comme l'a évoqué le Père, elle est coincée entre les deux aînées et puis les deux dernières, dont Thérèse. La petite Hélène qui est née après elle va mourir à l'âge de 5 ans. Elle en souffrira d'ailleurs beaucoup de cette solitude. Elle se retrouve coincée. Et quand on va au Buissonnet, on remarque qu'il y a la chambre des grandes, il y a la chambre des petites, et la chambre de Léonie est comme un petit peu coincée entre les deux, une sorte de couloir. Elle est, quelque part, Léonie va se retrouver très seule. Et puis, osons le mot, Léonie n'est pas jolie. J'aurais aimé qu'on puisse comparer les photos de Léonie jeune et de Léonie peu avant sa mort. C'est extraordinaire et ça va être un petit peu le cœur de mon propos, c'est de montrer à quel point la grâce de Dieu peut être transformante, peut être efficace et à quel point cela peut se manifester dans le corps, physiquement. Vous avez eu une transformation physique de Léonie, vous avez eu une transfiguration spirituelle, psychologique et également physique. Elle n'est pas jolie, c'est l'antithèse de ses sœurs qui sont pétillantes, intelligentes, vives, enjouées. Elle est lente, très lente, un peu caractérielle, c'est une écorchée extrêmement susceptible. Ça n'est pas simplement dû à un eczéma qui la fera souffrir toute sa vie, mais elle est ainsi blessée, écorchée depuis sa toute petite enfance, et comme le disait le Père, ce sera le gros souci de Zélie Martin. On peut même penser que le cancer que Zélie a développé, dont elle mourra à l'âge de 47 ans, eh bien, ce cancer est peut-être dû au poids, au fardeau qu'était Léonie, qui le savait. Ce qui a ajouté à sa propre souffrance, qui était pour notamment pour Zélie. Puisqu'on dit que Thérèse est un peu le chef-d'œuvre de Monsieur Martin, et que Léonie, eh bien, c'est le trésor, le chef-d'œuvre de Zélie Martin, le fruit de ses efforts, de sa prière. Et le Père évoquait la sœur de Zélie Martin, Marie de Zité, qui est visitandine à Caen, et qui ira rejoindre Léonie, et qui va énormément prier pour Léonie. Son papa fera un pèlerinage assez à pied pour elle, Dosité enchaîne des neuvaines, et donc elle va être portée, et l'on va voir le fruit de la prière persévérante qui va aboutir à cette transformation de Léonie. Qui ne réussit rien. Elle est renvoyée 3 fois de sa pension. Ce sont des échecs scolaires à répétition. Elle est cabossée. C'est vraiment le canard boiteux. Elle n'est pas facile à vivre. Elle se rebelle. Elle se ferme comme une huître. C'est vraiment la sale gamine que vous avez envie de claquer. Et je pense que Zélie et Louis Martin ont dû souvent se réfréner. Alors, ce qui est amusant de noter, c'est que cette Léonie, il y a beaucoup de « i », avait tout pour tomber dans l'oubli. Or, c'est aujourd'hui La sœur Martin, qui, après Thérèse, bien sûr, est la plus connue et la plus priée dans le monde. Elle a été, sa cause de béatification a été ouverte il y a 2 ans, en 2015. Personnellement, moi, je ne doute pas qu'elle aboutisse très vite et je suis persuadé qu'il y aura un jour une Sainte Léonie, parce que tous les canards boiteux dont je suis et tous les cabossés de la vie, et Dieu sait si nous en connaissons et si nous, quand nous ne sommes pas nous-mêmes, eh bien, nous avons besoin d'une sainte. D'une sainte comme Léonie, qui est une sainte merveilleusement donnée à notre époque. Vous savez que le Seigneur ne suscite pas des saints uniquement pour sa gloire, ce qui serait déjà beaucoup, ni pour le bonheur des personnes qui se laissent transformer par lui et par sa grâce, mais il les donne aussi pour répondre aux besoins d'une époque. Eh bien, Léonie, elle est venue pour nous. Elle répond à une époque qui souffre de grandes détresses au niveau psychologique, où les repères disparaissent, où il y a une crise profonde de la transmission à tous les niveaux, où il y a un éparpillement des personnes, des individualités, où il y a une solitude prégnante, où il y a une détresse psychique, quand elle n'est pas spirituelle, profonde. Et Léonie vient comme apaisée, comblée, elle est comme aspirée par notre propre vide, elle qui a souffert dans sa chair et dans son psychisme le vide et la solitude. Eh bien, le miracle de Léonie, c'est qu'elle a laissé ce vide se remplir par la miséricorde de Dieu, par la tendresse du Seigneur. Donc c'est la plus connue après Thérèse dans le monde entier, et vous allez à Caen à la Visitation, vous parlez avec les religieux, ils vous disent, nous on est, c'est cela depuis les années 70, nous on est débordés par le nombre de courriers qui sont envoyés, par le nombre de pèlerins qui viennent maintenant se recueillir sur la tombe de Léonie qui est dans la crypte de la Visitation. Il y a maintenant d'ailleurs des circuits. On va à Lisieux, on va à Alençon voir la maison de Louis et Zélie et la maison des Martins, et puis on va à Caen et on s'arrête sur la tombe de Léonie. Et puis bien sûr, il y a donc Alençon, Lisieux et puis Caen. Voilà, c'est ça. Et beaucoup de parents qui viennent prier pour un de leurs enfants, un de leurs enfants prodigues, un enfant qui est en souffrance, un enfant qui est en difficulté, qui ne trouve pas sa voie, et qui viennent donc prier Léonie pour ça. Donc, on ne peut pas comparer les photos, mais il s'agit bien, à travers Léonie, de montrer la puissance de la grâce, la puissance de transformation de la grâce. Qui est, donc Léonie, est là pour nous dire aujourd'hui, toi aussi, le Seigneur veut te transformer. Laisse-toi faire. C'est tout le cœur de la petite voix. On va voir en quelques mots ce qu'elle est, parce qu'on parle souvent de la petite voix, de la petite voix, de la petite voix. Et puis, parfois on en parle d'ailleurs comme une sorte de gris-gris ou de recette magique. Je ne sais pas si tu as essayé la petite voix, essaye comme Thérèse la petite voix. Et en fait, on ne sait pas toujours très très bien ce que c'est. Parce que la petite voix, c'est un subtil équilibre entre le faire et le laisser faire. Pas le laisser faire au sens de se la couler douce et de... Mais de laisser faire le Seigneur en nous. De laisser faire justement cette grâce transformante. Et puis le faire, parce qu'il faut le faire. Il est très étonnant de noter que dans tous les propos, soit chez Thérèse, mais aussi dans les lettres, parce qu'elle a beaucoup écrit, Léonie, dans ses lettres, il y a toujours ce combat entre ce qui pourrait être un volontarisme de la sainteté, parce que très tôt elle dit « moi je vais être une religieuse, moi je vais être une religieuse visitandine, à l'âge de 10 ans je crois, il y a 14 ans elle dit « je serai une sainte religieuse, je serai sainte », il y a la volonté, la sainteté, ça se décide, mais ça n'est pas le fruit d'un volontarisme. C'est le fruit de l'acceptation de se laisser modeler, c'est bien plus difficile, de ne plus être le patron, mais d'accepter que ça soit le Seigneur qui fasse le boulot. Et le Seigneur, Jésus, il a été charpentier, c'est-à-dire qu'il s'est manié le rabot, et parfois ça rabote. Et Léonie a été rabotée. Elle avait d'ailleurs une expression de nature raboteuse. Alors, excusez-moi, je vais me permettre de boire un peu. Je suis très, très intimidé par un tel auditoire, donc à votre santé. C'est de la menthe, hein. C'est couleur espérance, comme ça. Déjà, j'ai du mal à écrire dans mon journal, mais en plus, parler ne m'est pas habituel. Alors, on va essayer de voir, en quelques mots, des petits rappels quand même de qui est Léonie. Parce que Thérèse, on a l'impression de bien la connaître maintenant, mais la pauvre Léonie, comme l'appelait Zélie, ne disait pas ça sur un ton plaintif, mais pour la plaindre, parce qu'elle savait que sa fille souffrait et que c'était un peu comme une fleur qui n'arrive pas à trouver sa dimension. Donc c'est une figure obscure. Elle est remarquée aussi, on parlait de l'excentrement, enfin, ou plutôt de l'isolation de Léonie. Les trois sœurs vont être carmélites à Lisieux. Il y a donc le berceau familial qui est à Alençon, et puis après la mort de Zélie, Louis-Martin part à Lisieux, se rapprocher de sa famille Guérin, et Léonie sera, non pas carmélite, mais visitandine à Caen. C'est-à-dire que là encore, elle est comme... elle ne fait pas comme ses sœurs, même s'il y a une affection extraordinaire entre... Elles s'écrivent des lettres qui sont absolument magnifiques, mais elle ne fait pas comme tout le monde. Elle n'est pas dans la norme, elle n'est pas dans la normalitude, dirait-on. Elle est née en 1863, donc à Alençon, le 3 juin. Et très vite, je l'évoquais à l'instant, le contraste est saisissant et frappant avec ses deux aînés, qui sont pleines de vie, qui sont débordantes, éveillées. Elle est ingrate, elle se développe extrêmement lentement. Elle ne pousse pas bien, dit Zélie. Monsieur Martin donc va donc en pèlerinage, on prie pour elle, on sent que ça va pas. Et puis elle se révèle indisciplinée, une intelligence faible, lente, elle est toujours malade. Zélie est épuisée, elle est démunie. Elle dit, Léonie, cette terrible petite fille, elle souffre. Léonie déçoit. Et elle sait qu'elle déçoit. Et c'est pour elle une souffrance supplémentaire. Elle est renvoyée trois fois du pensionnat avant d'essayer quatre fois d'entrer chez les religieuses. On va le voir. Elle dit, elle fait sa première communion à l'âge de 12 ans, et elle a ce mot terrible, il n'était pas ce jour le plus beau de ma vie, parce que mon enfance et ma première jeunesse se sont passées dans la souffrance et dans les épreuves les plus cuisantes. Pour que quelqu'un d'aussi discret puisse faire cet aveu, il faut vraiment, excusez-moi, passez-moi le terme, mais qu'elle est morflée. Zélie va mourir précocement à l'âge de 46 ans d'un cancer, dans de vives souffrances. Léonie a 14 ans. La famille donc part à Lisieux, et Léonie va essayer un premier échec religieux chez les Clarisses à Alençon. C'est un échec. Quelques années plus tard, deuxième tentative chez les visitandines à Caen. Deuxième échec. La règle est rude et la mère supérieure n'est pas facile, l'applique sans transiger. Zélie a une santé fragile, elle n'arrive pas à suivre. En plus, avec un mode de vie chez les visitandines extrêmement haché, ce qui fait qu'elle est lente, elle le sera toujours, jusqu'à la fin de sa vie. Elle est lente et souffre de ce découpage permanent, parce qu'à chaque fois, il faut qu'elle se réadapte. Et les sœurs, ses sœurs, ont bien du mal à la supporter, à suivre. Troisième essai chez les visitandines à Caen, nouvel échec. Donc, il y a de quoi... Et elle persiste. Elle sait que c'est sa voix. Tout le monde lui dit, mais enfin, arrête. Te mets pas martel en tête. Manifestement, aux yeux rationnels, enfin, à vue humaine, tu peux pas. C'est pas que tu ne veux pas, mais tu ne peux pas, Léonie. Tu peux pas supporter cette exigence, cette discipline. Puis c'est peut-être pas ta voix. Si, c'est ma voix. Je serai religieuse et je serai sainte. Elle en a dans le carafon, le petit canard, là. Bon. Et alors, il va falloir... Et alors, après le troisième échec, elle a ce mot qui est très beau. Je finirai bien par me rendre. Comme si elle sentait qu'il y avait encore... Il y avait encore trop d'elle dans ce chemin de spirituel, dans ce choix spirituel. Il y a encore trop d'elle. Il faut qu'elle disparaisse. Il faut qu'elle s'anéantisse pour que le Seigneur, à ce moment-là, puisse vraiment la prendre. Et la quatrième fois, le quatrième essai à la visitation de Caen, eh bien, ça sera la bonne. Donc, ne désespérons pas. Au bout du troisième essai, quand ça ne marche pas, eh bien, on continue et on essaye une quatrième fois. À la mort de Thérèse, en 1898, quelques temps après, est publié dans l'obéissance, puisque Thérèse ne fait qu'obéir à ses supérieurs, est publié le journal de Thérèse, donc qui raconte un peu son enfance, et puis qui va délivrer tout son enseignement spirituel, et qui est livre que l'un des livres les plus connus au monde, et qui est donc le fameux Histoire d'une âme. Histoire d'une âme. Et Léonie va être une lectrice d'Histoire d'une âme. Et quelque part, alors qu'elle connaît bien sa petite sœur, qui a une relation profonde d'affection, mais elle découvre l'itinéraire spirituel de sa petite sœur. Et cet itinéraire est pour elle une révélation, cette fameuse petite voix. Et elle se dit, mais il faut que j'essaye ça. Parce que elle peut être quasiment un peu désespérée. Parce que ça fonctionne pas. Elle se heurte aussi à ses propres blocages psychologiques. Et elle sent qu'il faut une libération. Elle sent qu'il faut qu'elle trouve sa place. Mais où, quand? Donc, la visitation, ça marche. Et là, elle découvre Histoire d'une âme. Et là, ça va être le déploiement. Et c'est pour ça qu'on peut dire effectivement que Léonie a été le premier disciple de sa sœur. Elle va le mettre en pratique, elle va tester. C'est une sorte de cobaye de la petite voix. Et elle rentre, après être entrée à la visitation, une quatrième fois, elle a ce mot, parce qu'elle ne manquait pas d'humour, « Je sortirai d'ici », alors qu'elle est déjà... partie de trois reprises, je sortirai d'ici, mais dans mon cercueil. Et c'est ce qui se passera, parce que ça va marcher. Mais elle ne cachera pas, mon Dieu, que j'ai souffert. Alors, oui, je disais, pourquoi s'attarder justement sur le cas Léonie, alors qu'on a Thérèse, on a ses sœurs, eh bien parce que justement, c'est vraiment le test, Léonie, le test vivant que la petite voix, eh bien, c'est un grand chemin de vie et ouvre une expérience à tous ceux qui n'arrivent pas justement à trouver leur voie. Alors, je le disais, Dieu offre des modèles de saints également pour répondre aux besoins de l'époque. Et nous avons besoin de Léonie. Nous avons besoin de nous abandonner dans des bras tendres et forts de Dieu, c'est l'expression de Léonie, et de croire que notre vie peut être changée de l'intérieur par celui qui en est le Créateur et le Seigneur et le Sauveur. Mettez vos pas dans les miens, nous dit Léonie, et je vais vous indiquer ce petit chemin caché qui est la petite voie, source du bonheur. Je le disais également, il y a un autre public qui est très réceptif au secret de vie de Léonie, ce sont les parents et les éducateurs. Parce que c'est le plus difficile métier qui soit au monde, de faire grandir et de permettre à des jeunes, à d'autres, de grandir, de s'épanouir, de trouver leur pleine dimension, leur pleine personnalité, dans le respect de leur liberté, tout en maintenant des tuteurs, autant que l'âge le permet, et pour leur permettre de s'épanouir. C'est le plus difficile et c'est le plus, sans doute, contraignant, le plus exigeant, parce que, on voit souvent nos jeunes qui se cassent la figure, qui font des bêtises, qui... Et donc Léonie est très, très priée par les parents et par les éducateurs. Quant à Léonie, le bon Dieu seul peut la changer, et j'ai la conviction qu'il le fera. Ça, c'est Zélie qui, avant de mourir, a cette préscience, d'espérance, lui donne l'espérance. Quant à Léonie, le bon Dieu seul peut la changer, et j'ai la conviction qu'il le fera. Alors, continuons un peu notre biographie. Il est étonnant de voir la proximité de Léonie qui va se raccrocher à Thérèse. Et même quand Thérèse sera morte, elle va vraiment pomper, on peut dire, sa spiritualité et la faire sienne. Ça va devenir sa propre chair. Elle prie Thérèse. Elle lui demande de la conduire dans ses différentes tâches. Elle confie à Céline, « Tu sais que je suis infirmière pour 10 jours. » à l'infirmerie du couvent. « Ah, voilà mon secret, c'est ma Thérèse chérie qui est infirmière, et moi, je ne suis que sa toute petite aide. » Et docteur Thérèse l'est, bien sûr, parce qu'elle est docteur de l'Église, mais on peut jouer aussi avec le mot, c'est-à-dire que la petite voix d'amour, c'est un pansement, c'est une thérapie. Bernard Dubois vous en a sans doute parlé, mais il y a effectivement toute une thérapie spirituelle avec des fruits psychologiques dans cette petite voie d'amour. Et on peut dire que Thérèse est docteur et que Léonie, quelque part, c'est son infirmière. C'est l'infirmière qui applique la médication de Thérèse et qui l'applique aux cas les plus désespérés, et à commencer par elle. Elle fait sa prise d'habit. Remarquez bien, c'était quand même très difficile de ne pas se comparer. À l'âge de 20 ans, Thérèse s'occupait déjà des novices au Carmel. Léonie va rentrer à la Visitation pour le quatrième et réussi essai à l'âge de 34 ans. Donc, vous voyez, elle a dû également souffrir de voir ses sœurs, ça marchait comme sur les roulettes, quoi. Et elle qui peinait dans cette montée interminable. Elle prend l'habit et elle réalise la prédiction de Thérèse qui dit « Elle prendra mon nom et celui de Saint-François de Sales. » Et en effet, donc, elle est appelée Sœur Françoise Thérèse, les deux docteurs de la voie d'enfance spirituelle. Ça l'embête pas, c'est pas parce qu'elle est au couvent qu'elle devient sainte, et qu'elle devient gentille, et qu'elle devient parfaite. Elle est toujours aussi lente, et il y a des sœurs qui ne peuvent plus la supporter. Elle est méticuleuse, elle est maniaque, et elle le sera jusqu'à la fin de sa vie. Maniaque, il faut qu'elle ramasse, il faut que rien ne traîne, et donc elle arrive en retard aux offices, elle tranche avec le bel ordonnancement d'un couvent normal. Jusqu'au bout, Léonie n'aura pas fait comme tout le monde, n'aura pas été normale. Alors, elle tiendra deux rôles au couvent. Et c'est beau de voir comment le Seigneur se sert de nos expériences de vie. Léonie a beaucoup accompagné son papa, Louis, puisque avec une dégénérescence cérébrale, Louis a perdu la tête, il va devoir être hospitalisé à Caen, à l'asile, au Bon Sauveur. Et ceux qui sont allés à Caen, il est amusant de noter que le Bon Sauveur, qu'on voit toujours, qui n'a plus les... Une partie des bâtiments, quand même, demeure de l'époque, mais est en face de la Visitation. C'est-à-dire, quelque part, Léonie, après s'être occupée de son papa, eh bien, avait comme un œil spirituel sur lui, même dans la proximité géométrique qu'il y a entre la Visitation de Caen et l'hôpital du Bon Sauveur. Elle s'occupe de son papa, et cette expérience, elle va le mettre à la disposition des religieuses âgées. C'est-à-dire qu'elle va être très proche des personnes âgées et également des jeunes postulantes. Parce que ce qu'elle a vécu dans sa jeunesse, dans son enfance, tumultueuse, douloureuse, même si ça ne fait pas de vague socialement, il y en a intérieurement et il y en a dans la maisonnée, eh bien, elle va le mettre dans l'écoute et dans l'accompagnement des jeunes postulantes. Et par exemple, une fois, elle aperçoit à l'office une jeune qui est en larmes, eh bien, elle va la rattraper au sortir de l'office pour l'embrasser, pour lui mettre la main sur l'épaule en un signe de présence, un signe de compréhension, un signe de compassion. Elle comprend les jeunes parce qu'elle est passée par le tourment d'une jeunesse secouée. Elle aussi, sa santé déclinera, donc elle va rester 41 ans à la Visitation, sans éclat. C'est la sainteté des petites choses. Les petits ne font pas de vagues, mais les petits grandissent par les petits riens. Et une vie de religieuse, c'est comme une vie de mère de famille, comme une vie d'ailleurs de n'importe qui, c'est très souvent les petits riens du quotidien. Et ces petits riens qui sont à sanctifier, qui sont à offrir, qui sont à habiter ou à laisser la grâce les habiter pour vivre avec le Seigneur et pour en faire des forces de sanctification dans la communion des saints. Et elle va de plus en plus avec une santé qui décline, avec des gros problèmes d'arthrose, de pieds. Elle a beaucoup d'humour. Elle a un lumbago qui l'a fait énormément souffrir aussi. Et alors, elle dit, j'ai l'impression d'avoir 100 ans et je cours comme une petite vieille toute rabougrie dans les couloirs. Et elle vit ça avec un abandon complet en disant, le divin voleur est à la porte et je lui dis, par ici, par ici. Elle invite le Seigneur à venir la prendre le plus tôt possible. Il l'attendra un peu, il la fera attendre, hein, puisque elle ne mourra qu'à 78 ans, contrairement à un nombre de ses sœurs. Elle souffre beaucoup et elle confie, je fais comme ma Thérèse, ma Thérèse, ou Thérèse chérie. Je fais comme ma Thérèse, je ne peux pas prier, j'aime. Voilà, elle ne peut plus prier tellement elle a mal, mais elle aime, elle vit ça dans l'amour. Et n'est-ce pas la plus belle prière? Elle dit aussi, je veux être si petite que Jésus se voit forcé de me garder dans ses bras. Bon, ça, hein. Je veux être si petite que Jésus se voit forcé de me garder dans ses bras, écrit-elle à ses sœurs. Alors, excusez-moi que je ne... Faut pas que je m'égare. Il faut pas que... Oui, ça avance tout ça quand même. Excusez-moi, je suis bavard, hein. Alors, oui, on la compare à l'humble violette cachée. Et l'humble violette cachée a beaucoup d'humour, parce que ce sont un peu les deux piliers de sa sainteté, c'est l'humilité et c'est l'humour, qui ont la même origine grammatical humus, la terre. Et beaucoup d'humour, Léonie qui dit « Noblesse oblige, je suis d'une famille de saints, il ne faut pas que je fasse tâche. » Et donc, qui décide d'être sainte chaque jour. Le petit canard boiteux. Oui, l'histoire de Léonie, c'est très touchant parce que c'est quelqu'un qui échoue là où les autres réussissent. C'est quelqu'un qui, y compris dans la vie spirituelle, veut dire quand même une telle bonne volonté, mais non, elle se casse la gueule sans arrêt. Et chaque fois, elle se relève, chaque fois, elle se laisse relever. Mais il y a une sorte d'inégalité fondamentale qui peut parfois surprendre entre Léonie et ses sœurs. C'est comme si elle avait attiré une sorte de paratonnerre tous les handicaps, laissant à ses sœurs, j'allais dire, la gloire et la voie droite, même si elle fut petite et bien douloureuse également, bien sûr, mais notamment la mort de Thérèse. Mais Léonie a comme attiré les handicaps de la famille. Et de ces handicaps, elle va faire de l'or. Elle avait tout pour être une révoltée, une jalouse, une résignée, une résignée triste, amère. Eh bien, aucunement. Dans une lucidité complète sur ses propres failles et aussi sur une lucidité sur ce que réussissent ses sœurs, sur ce que ses sœurs de chair, mais également ses sœurs religieuses. Aucune envie, aucune jalousie, parce qu'elle laisse le Seigneur seul la juger, la jauger. Et elle sait que ce regard est un regard de tendresse, d'amour, qui sans cesse vient relever le pécheur, et sans jamais comparer avec d'autres. Le père Piat, qui est l'un des biographes de Léonie, dira que l'histoire de Léonie, c'est le passage du mépris de soi à l'oubli de soi, parce qu'elle avait tout pour se mépriser, tout pour... se haïr. Et vous savez, c'est Bernanos qui a une phrase qui dit le comble de la grâce, c'est de s'oublier, parce qu'il est trop facile de se haïr. Et Léonie va arriver à cette grâce de l'acceptation, du consentement de ses défauts, de ses fautes, et va arriver à l'oubli de soi. « Je veux grandir, dit-elle, et rester petite tout à la fois. » C'est un petit peu sa devise de vie. « Je veux grandir, je veux être sainte, je veux grandir dans l'amour de Dieu et rester toute petite à la fois. » Et en même temps, c'est parce qu'elle reste toute petite qu'elle grandit. Excusez-moi de... Je reprends un petit peu de liqueur verte. Merci de votre patience. Oui, Dieu déploie sa puissance dans un cœur à proportion de la pauvreté qu'il consent à lui offrir. Et c'est ce qu'on voit éminemment chez Léonie qui écrit « C'est ma misère extrême qui me donne cette confiance. C'est ma misère extrême qui me donne cette confiance. » Elle écrit ça dans une de ses dernières lettres en 1941. Et cela reprend les mots qu'elle a le jour de sa consécration, donc 40 ans plus tôt, où elle dit « Mon Dieu, ma confiance vous est d'autant plus grande que je me sens si petite et la misère même. » Et juste avant de mourir, c'est encore un mot de confiance au Seigneur, elle renouvelle cette confiance tous les jours. Et elle nous invite donc, bien sûr, à le faire. Alors, je disais, la difficulté de la petite voix, c'est cet équilibre entre le faire et le laisser faire. Oui à l'abandon, mais jamais sans l'exercice de la bonne volonté, qui va chercher sans cesse, c'est le mot de Léonie, à lever son petit pied. Lever son petit pied pour avancer. Lever son petit pied aussi, comme vous savez, un peu une pédale d'accélérateur. Lever, on lève le pied pour monter une marche, pour s'élever. On lève le pied aussi pour ne pas accélérer. En fait, Léonie laisse le Seigneur accélérer. Elle lui dit, prends le volant et prends les pédales. Moi, je lève mon petit pied. Le petit, je le disais, est condamné au petit rien en raison de ses limites. Et il est donc contraint à cette mystique qui paraît peu reluisante aujourd'hui, mais cette mystique qui est fondamentale pour le chrétien, qui est celle du devoir d'État. C'est ce que va vivre Léonie, dans l'humilité la plus totale. Parce que franchement, est-ce que Léonie n'aurait pas été tirée par la grâce de Thérèse et par tout ce que Thérèse va faire pour elle, Léonie aurait été une religieuse comme toutes les religieuses, et elle ne serait pas bientôt sur les autels. C'est une vie de cachée, ce qui n'empêche pas d'être sainte. Mais c'est ça qui nous bouscule, c'est qu'aux yeux de Dieu, qu'est-ce qui est le plus important ? Est-ce que c'est le brillant sans amour ou c'est l'insignifiant imprégné d'amour ? Eh bien, Léonie nous donne la réponse. Ce n'est pas le brillant sans amour, c'est l'insignifiant imprégné d'amour. C'est accomplir l'ordinaire de façon extraordinaire. C'est ça, Léonie. Le plus difficile pour moi, dit-elle, c'est l'égalité d'humeur. Que j'ai besoin de vos prières pour m'aider à triompher de mes imprévisions. Parce qu'elle a beaucoup de mal à se maîtriser. Et elle le dira. Je vais vous lire quelques phrases maintenant, parce que je ne vais pas avoir le temps, en fait, de... On a encore combien de temps, Anita ? Ouais.
7 minutes maxi.
D'accord, très bien. Donc, je vous disais l'humilité et l'humour. L'humilité, je vais simplement me contenter de vous lire quelques phrases tirées de ces lettres. On vient de parler du caractère. Ce sont des notes prises pendant une retraite, des résolutions. Accepter mon caractère. Douceur et humilité dans les rapports mutuels. Voici le point principal que je veux surveiller. Il porte tout entier sur mon caractère difficile, qui me donne beaucoup de luttes, surtout pendant la récréation, où je veux à tout prix me montrer douce, humble, affable. Vaincre ma sensibilité, outrée dans les rapports mutuels, surtout pendant les récréations, et ceci par un regard d'amour sur notre Seigneur. Ne pas se décourager. Quand j'aurai failli, au lieu de me décourager, ce qui serait un orgueil tout pur, je m'en humilierai en disant ma culpe, mais sans me morfondre ni piétiner sur place. Demander la grâce de ne jamais me décourager de mes fautes, mais plutôt, comme un petit enfant, me jeter avec confiance et beaucoup d'amour dans les bras de mon tendre Père des cieux. C'est ainsi qu'agissait ma Thérèse. Je compte sur elle, à bon droit, pour m'aider et pour me conduire au ciel. Finalement, je me découragerai jamais de mes fautes, car les petits enfants tombent souvent, mais ils ne se font pas grand mal, ils sont trop petits pour cela. C'est ma sainte petite sœur qui le dit, et elle en a fait la très douce expérience. Jésus porte sa toute petite enfant parce qu'il sait que même en cheminant, le tenant par la main, elle tomberait le nez par terre. J'ai donc tout avantage à ne point quitter ses bras divins, aussi comme je me garde d'essayer à grandir. » et encore ceci, écrit en 1930, « L'éclat des filles de la Visitation, c'est de n'avoir point d'éclat, et leur grandeur, c'est la petitesse, dit notre saint fondateur, François de Sales. L'humilité est ma seule planche de salut, je l'aime par-dessus tout, j'ai soif de l'effacement, je veux moi aussi, comme ma Thérèse, me passionner pour l'oubli. Le bon Dieu me fait voir, clair comme le jour, que je dois toujours plus me plonger dans mon néant. Il me veut aimer ma petitesse, mon impuissance à tout bien. Alors être heureuse de n'être rien et considérée comme telle malgré les réclamations de l'amour propre. Je ne veux donc plus me mettre en avant, sans aucun prétexte, mais mener désormais avec joie ou sans joie, peu importe, une vie toute cachée et anéantie aux yeux des créatures. Je fais mienne ces paroles de ma sainte petite sœur qui m'aideront puissamment, j'en ai la douce confiance, au Jésus. Que ne puis-je dire à toutes les petites âmes ta condescendance ineffable ? Je sens que si, par impossible, tu en trouvais une plus faible que la mienne, tu te plairais à la combler de faveurs plus grandes encore, pourvu qu'elle s'abandonne avec une entière confiance à ta miséricorde infinie. Du coup, mon Jésus, la voilà, cette toute petite âme. Vous ne pouvez en trouver une plus faible, plus misérable que la mienne. J'ai donc tout droit de compter de m'abandonner à votre miséricordieux amour qui me fera triompher de mon sot orgueil, en étant fidèle à ma résolution, à mon Dieu, dans ma vie, où vous avez mis peu de ceux qui brillent. Faites que, comme vous, j'aille aux valeurs authentiques, dédaignant les valeurs humaines, pour estimer et ne vouloir que l'absolu, l'éternel, l'amour de Dieu, à force d'espérance. Ça serait presque une belle chute, mais encore quelques mots, parce que je voudrais quand même souligner son humour. Alors que c'est dur de garder l'humour quand on souffre dans sa chair, dans son cœur, eh bien, Léonie est très drôle. Elle ne se prend pas au sérieux. Elle se considère comme un petit cheval échappé, ou comme une vitre toute fêlée, si facile à remplacer, ou bien comme une poule mouillée. Je me porte à merveille, comme mon limbago, qui me fait courber comme une veille de 100 ans, et je m'en vais ainsi très joyeusement en paradis. L'autodérision, sans arrêt, l'autodérision spirituelle, qui est le contraire d'un humour très contemporain, qui est le cynisme l'humour qui fait mal. Non, elle rit d'elle-même avec dans la douceur. Et ça, c'est le fruit d'une fréquentation de l'amour de Dieu. Parce que elle se sait l'objet de la bonté de Dieu. Et elle finit par être bonne à son égard grâce à cette miséricorde. Alors, Léonie a donc réussi à laisser le Seigneur combler son handicap, c'est-à-dire le fossé qu'il y avait entre le grand écart, qu'il y avait entre l'appel de Dieu à la perfection de l'amour et puis ses pauvretés et ses imperfections. Et ça, elle l'a fait par le remède de la confiance, rien que par la confiance. Mais une confiance qui n'est pas un laisser-faire. Elle a pour colonne vertébrale une ferme volonté de se livrer à l'amour. Elle s'est décidée pour Dieu, Léonie. Et la confiance et l'abandon, c'est absolument pas cela coulait douce, comme attendre que la grâce vous tombe dans le bec sans avoir à lever le doigt. Non, il faut lever le petit pied. Marie de Zité, la sœur de Zélie, aura un très grand rôle parce qu'elle arrivera à la visitation, elle arrivera à bien l'apprendre, Léonie, avec un mélange en même temps de fermeté, en même temps de douceur, de patience, parce qu'elle est écorchée, la Léonie. Et donc il faut l'apprendre avec des pincettes, mais en même temps, il faut la prendre. Encore un mot. Encore une belle citation. Oui, j'évoquais la décision ferme de devenir sainte. Dans cette voie de sainteté qu'est la voie d'enfance, il n'y a pas de place pour l'entre-deux. C'est tout ou rien. Et Léonie dit, « Je vous assure, dit-elle à ses sœurs, que je ne me donnerai pas à Jésus à moitié, tout ou rien. » C'est Rimbaud, je crois, qui parle du combat spirituel en disant que le combat spirituel est plus rude que la bataille d'hommes. Eh bien, il y a quelque chose dans cette décision de Léonie, quelque chose qui est presque viril, tout ou rien, dans le choix de Dieu. Et c'est ce choix qu'elle fera chaque jour dans la persévérance cachée. Alors, s'il fallait retenir qu'une seule de ces paroles, eh bien, je reprendrais volontiers la suite de ces lettres qui résume un petit peu, Léonie, ce que nous venons de voir. Ô mon Dieu, dans ma vie, vous avez mis peu de ce qui brille. Faites que, comme vous, j'aille aux valeurs authentiques, dédaignant les valeurs humaines, pour estimer et ne vouloir que l'absolu, l'éternel, l'amour de Dieu à force d'espérance. Léonie n'est pas docteur de l'Église. Mais elle est docteur parce qu'elle est. Elle est docteur parce qu'elle réverbère de façon toute spéciale tout l'enseignement de la petite voix transmis par Thérèse, qu'elle fait sienne et dont elle est le prophète éminent. Disons qu'elle enseigne parce qu'elle est, Léonie. Elle est docteur parce qu'elle est. Et elle est docteur aussi, rien que pour cette réflexion que je trouve extraordinaire, et c'est ainsi que je voudrais terminer. Jésus s'enfonce en moi et fait son œuvre secrètement, j'en suis sûr. Comme j'aimerais pouvoir, la veille de ma mort, pouvoir dire, Jésus s'enfonce en moi et fait son œuvre secrètement, j'en suis sûr. C'est tout le bien que je vous souhaite avec l'aide d'une telle infirmière. Merci Léonie, merci de votre patience.
Merci Luc. En entendant un peu tes propos, je pensais aux parents. Parce que forcément, si ces handicaps devenaient de l'or, c'est parce que papa a été bijoutier. Et si elle allait jusqu'au bout de la perfection, c'est parce que maman était dentelière. Elle a hérité aussi du papa et de la maman de ce côté-là. Je me souviens simplement de deux mamans. L'une avait un grand-fils, une vingtaine d'années, qui était autiste. Et l'autre avait une grande fille qui, elle, était un peu faible d'esprit. J'ai préparé l'un et l'autre à la première communion. On se connaissait bien. Et les mamans qui disaient, mais avec beaucoup d'amour dans le cœur, chacune a son canard boiteux. Et peut-être que chacun aussi a une partie de lui-même qui est un peu boiteuse. Une dernière question, Luc. Quand tu prends la plume, je suppose que tu as un crayon vert.
À chaque fois qu'on propose à Luc de venir nous enseigner, il commence toujours par me dire « Oh non, mais plutôt, va aller choisir quelqu'un d'autre, aller choisir quelqu'un d'autre. » Eh ben non, je regrette vraiment pas, une fois de plus, de vous avoir invité, Luc. Et je suis persuadée que Thérèse est très heureuse d'avoir entendu parler comme ça de sa sœur. Un grand, grand merci aussi. Si vous voulez vous procurer l'enregistrement de cette conférence, il vous suffit encore d'attendre quelques minutes, et c'est à l'extérieur, sur la gauche, sous la tente. À 17h15, vous aurez un très beau concert par Elisabeth Boglio-Charron. Elisabeth, hier, a animé la veillée d'adoration et elle nous a vraiment aidés à entrer dans la prière par ses très, très beaux chants. Voilà, donc je vous invite à revenir dans la chapelle vers 17h15. Ensuite, vous avez la messe à 18h30. À 19h30, il y a la mini-retraite qui continue avec Bernard Dubois. Et puis, 20h15, le son et lumière. Et 20h45, la soirée pétale de rose avec Hélène Mongin, qui nous donnera un très très beau témoignage aussi. C'est grâce à Famille Chrétienne que j'ai découvert Hélène Mongin. Et je pense qu'elle va nous... Voilà, ce soir, ça sera très beau aussi. Je vous rappelle aussi qu'il y a des prêtres qui sont à votre disposition pour la confession ici et à l'extérieur. Merci aussi de votre générosité. Les frais de la semaine thérésienne, voilà, ils ont besoin d'être couverts, donc ce serait gentil, voilà, si vous pensiez voilà, à mettre un petit quelque chose. La librairie aussi, la vente continue, et vous avez des livres qui sont à votre disposition, des livres de Luc aussi. Voilà, et pour terminer, si vous n'avez toujours pas vu l'exposition de peinture de Joël Cunin dans la salle des mécènes, surtout allez-y, vous ne regretterez rien. Voilà, bonne continuation.